9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Au programme, le travail et la sexualité. Deux sujets toujours d'actualité, mais vus par des historiens. Olivier Grenouillot est mon premier invité ce matin. Il publie L'invention du travail. Je recevrai ensuite Fanny Bunion et Pierre Fournier pour leur livre Le sexe interdit, une plongée dans 10 siècles d'archives judiciaires qui nous permet de mieux comprendre comment nos ancêtres vivaient leur sexualité, qu'est-ce qui était admis, qu'est-ce qui était puni, pas forcément ce que l'on croit.
Europe 1.
Olivier Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
On vous doit des livres qui font autorité sur l'esclavage, mais aujourd'hui vous publiez aux éditions du Cerf L'invention du travail. Alors un livre qui se passe en Occident, hein. Vous n'êtes pas allé fouiller dans les autres cultures. Mais en Occident, on voit bien en vous lisant que ce qu'on appelle le travail a évolué avec le temps.
Ah oui, le travail a évolué, mais l'objet du livre n'est pas d'étudier, je dirais, les modalités du travail, mais la manière dont sans arrêt les sociétés ont pensé et repensé le travail, d'où le titre de l'invention du travail. Ce n'est pas la date à laquelle le travail aurait été inventé, mais bien comment les hommes ont pensé le travail, et ce, je dirais, depuis la Mésopotamie antique jusqu'à aujourd'hui.
Au fond, c'est un livre sur les discours qui se sont succédés sur le travail.
Sur les discours et le travail, peut-être pourrait-on commencer par essayer de définir ce que peut être le travail. Le travail, c'est forcément une activité volontaire, hein, et orientée vers quoi ? Orientée d'abord vers la satisfaction de besoins, je dirais, élémentaires. Et donc, c'est là que le travail, qui donc action, devient parfois labeur. Mais le travail aussi, les porteurs de sens, hein, de sens pour l'individu, pour la société, connotation matérielle, mais des sens également spirituels. Et donc, ce faisant, le travail est aussi œuvre, ou il peut devenir œuvre également. Voilà.
Vous expliquez que le néolithique est devenu la pierre angulaire d'un discours assimilant l'invention du travail à l'entrée dans un cercle malfaisant. Alors il faut revenir sur le néolithique, hein, bien entendu, c'est le moment où on invente l'agriculture, où on se sédentarise. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'avant le néolithique, du temps de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, bien on ne travaillait pas.
Oui, alors ça, cela renvoie à ce qu'on peut appeler les récits sur les origines, nos origines. Et donc, il y a d'abord le premier récit, peut-être on en parlera, qui est biblique. Hein, là, lorsque Adam et Ève sont chassés du Jardin d'Éden, il y a la révolution industrielle, qui est aussi un début du travail pour certains. Et puis, il y a, c'est vrai, le néolithique. Avec finalement, je dirais, deux récits qui s'opposent. Le premier récit, c'est celui du 19e siècle, Darwin et les autres, l'évolutionnisme. Et donc, lorsqu'on passe des chasseurs-cueilleurs à des sédentaires, agriculteurs, éleveurs, c'est vu comme un progrès merveilleux. Voilà. On passe de la sauvagerie, on entre dans la civilisation. Et puis, je dirais, depuis les années 1970, il y a un discours tout à fait inverse qui s'est mis en place et qui nous tend à considérer finalement les chasseurs-cueilleurs comme des gens heureux, en harmonie avec la nature, ne travaillant pas, ne connaissant ni la guerre, ni les inégalités.
Vivant dans l'abondance aussi.
Dans l'abondance, hein. Alors, c'est le titre d'un ouvrage, Âge de pierre, âge d'abondance, mais c'est plutôt Âge de pierre, âge de suffisance. Hein. Au contraire, eh bien justement, le travail avec l'élevage, l'agriculture, ouvre la voie ensuite à la mise en place des premiers villages, des cités-états, de l'écriture, et c'est l'entrée dans l'histoire, avec ce que l'on imagine, à savoir la guerre, la domination, l'exploitation, l'esclavage, etc. Et donc, c'est vrai que pour certains aujourd'hui, le néolithique paraît être une sorte de paradis passé. Hein. Mais j'ai bien paraît parce que ces visions des choses, comme je le montre dans le livre, est quelque peu idéalisée.
L'Antiquité connaît un certain mépris pour le travail. Hein. Travailler était considéré comme méprisable, c'était bon pour les esclaves. L'élite en était dispensée, c'est-à-dire les nobles, les guerriers, les prêtres, les philosophes comme Aristote et Platon. L'idéal, au fond, c'était de vivre de ses rentes, sans contrainte.
Ça, c'est l'idéal de quelques personnes finalement privilégiées. Comme vous dites, Platon, Aristote, etc. Et souvent, on se limite à cela pour qualifier les mondes anciens, avec l'idée que le travail aurait été longtemps méprisé, avant la fin du XVIIIe siècle, Adam Smith et la Révolution industrielle, où on l'a au contraire valorisé. En fait, à chaque époque, il y a des discours, je dirais, favorables et défavorables au travail. Dans la Grèce ancienne, finalement, ce qui n'est pas accepté, ce qui est mal vu, c'est travailler pour d'autres. C'est-à-dire que quand vous travaillez pour d'autres, vous avez des contraintes, vous êtes dépendant de la personne qui vous donne un salaire, et donc vous perdez un petit peu de votre liberté. Par contre, le travail pour soi et au sein de ce qu'on appelle l'oïkos, donc le système rural familial, c'est très bien vu. Les dieux, Apollon oui, construit les murailles de Troie, Héphaïstos forge les armes d'Achille, et puis lorsque Ulysse rentre à Ithaque, déguisé en mendiant, il lance un défi à l'un des prétendantes Pénélope, son épouse, il lui dit « on va voir lequel de nous deux peut tracer le sillon le plus droit ». Et donc le travail n'est pas dévalorisé globalement, c'est le travail pour autrui qui est dévalorisé, hein, je dirais.
Et dans la Bible, dans le monothéisme, comment est vu le travail ?
Alors là aussi, on peut commencer peut-être par la petite phrase qui est censée tout résumer, à savoir, quand Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre, tu travailleras, l'homme, à la sueur de ton front. Hein. Et donc, comme s'il y avait une malédiction pesant sur le travail. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque dans la Genèse, le serpent est maudit, la femme devra accoucher finalement dans la douleur, et la terre est maudite. La terre ne produira plus spontanément. Mais ce n'est pas le travail qui est maudit. Et lors de la seconde alliance, après le déluge, entre Dieu et Noé, Dieu dit que plus jamais il ne maudira la terre à cause de l'homme. Donc je dirais que le travail n'a jamais été maudit, et la malédiction pesant sur la terre était provisoire. Et tout au contraire, dans la Bible, nous montre que le travail est valorisé. C'est l'oisiveté, finalement, qui est décriée. Le travail est valorisé... Dieu, le Créateur, travaille. Le Christ, lorsqu'il rencontre les premières personnes qui deviennent ses apôtres, il les rencontre en train de travailler. Et puis Paul écrit des textes très très forts sur la nécessité de travailler. Mais la question qu'on peut se poser, c'est mais ce travail, pourquoi ? Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau ne disent pas forcément la même chose, mais travailler dans l'Ancien Testament, grâce à son travail, si on est juste, si on suit les préceptes divins, on peut réussir. Voilà. Mais à chaque fois, même la réussite est sous la condition finalement du regard divin, et la réussite n'est qu'en partie illusoire. C'est la parabole dans le Nouveau Testament du riche propriétaire qui se demande combien de greniers va-t-il devoir finalement construire de nouveau pour accueillir tout ce qu'il a. Mais on lui dit peut-être que dans la nuit, il va mourir. Et donc toute richesse est illusoire. Et peut-être que ce qui est essentiel dans la Bible, le message principal, c'est que le travail est œuvre. C'est l'œuvre divine de création. Et puis dans cet testament, il y a trois mots qui disent ce que l'homme doit faire. Et l'homme doit dominer, puisque Dieu dit que l'homme doit dominer les animaux. Voilà. L'homme doit garder finalement la création, et cultiver. Cultiver, c'est faire fructifier ce que Dieu a donné, et en se faisant, en cultivant, se cultiver soi-même. Et ce que met en avant, au-delà de cela, finalement, le Nouveau Testament, c'est le travail, je dirais, comme relation à autrui, comme service à autrui. Et donc, on est très loin de l'idée d'une malédiction du travail. Le travail peut être difficile, mais c'est un moyen de rédemption. Et c'est une manière de recréer l'harmonie entre Dieu et les hommes, et entre les hommes eux-mêmes.
On continue dans un instant avec Olivier Grenouillot. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Olivier Grenouillot qui publie « L'invention du travail » aux éditions du Cerf. À partir de l'an 1000, s'établit une société en trois ordres, hein, les guerriers, les prêtres et les travailleurs, au fond.
Oui, et d'ailleurs, c'est la première fois que la société est ainsi officiellement divisée en fonction des tâches accomplies par chacun. Parce que donc, celui qui prie, c'est une tâche aussi. Celui qui défend est une tâche aussi. Hein. Et celui qui travaille la terre, c'est une autre tâche. Mais les trois sont considérés un peu comme un travail. Regardez dans la vie monastique. On oppose... Enfin, il y a trois choses dans la vie monastique. La prière, la méditation, et puis le travail. Le travail dans les champs, etc. Alors, selon les époques, selon les règles, finalement, l'une ou l'autre de ces tâches prend de l'importance. Et souvent, c'est la... ce sont les exercices spirituels qui sont valorisés. Mais néanmoins, dans la vie monastique, l'exercice spirituel, c'est une tâche obligatoire, réglée, normée, répétitive. Et cet exercice spirituel revêt finalement les caractères d'un travail. Inversement, le travail des mains, dans la vie monastique, les mains servent aussi à copier les manuscrits. Et ce travail-là, des mains manuelles, permet d'accéder à une certaine spiritualité. Donc même s'il y a une inégalité, je dirais, entre types de travaux dans la vie monastique, en réalité, il y a une frontière très poreuse entre travail manuel, travail de l'esprit, etc.
C'est au Moyen-Âge que l'idée de travailler plus pour vivre mieux commence à cheminer, vous le racontez, Olivier Grenouillot. Mais la grève, telle que nous la connaissons, et on en connaît certaines en ce moment de façon assez lourde, est-ce que la grève existait ?
Alors on peut se poser la question, si la grève existait, enfin telle qu'on la conçoit, il y a plusieurs types en fait de contestation, de rébellion, d'opposition. Il y a la fuite ou le départ. Ce qui est valable pour les ouvriers un peu qualifiés, qui, lorsqu'ils ne sont pas contents du salaire, vont dans une autre ville parce qu'ils ont une qualification, ils savent qu'ils ont trouvé un emploi. Il y a aussi des interruptions de travail pour avoir un salaire un peu supérieur. Mais tout dépend en fait au Moyen-Âge du type de qualification que vous avez. Et les métiers les plus difficiles sont ceux dans le textile, où finalement le prix d'un objet textile à 60% c'est la main d'œuvre. Et donc si on veut rogner sur le prix, on rogne sur les salaires. Et dès l'époque médiévale, il y a des catégories d'ouvriers qui sont extrêmement exploitées.
Au fond, c'est à cette époque-là que l'enrichissement est lié au travail, ce qui n'était pas le cas auparavant. On travaillait pour vivre, pas pour devenir riche. D'ailleurs, ce n'était pas en travaillant qu'on devenait riche, c'était en naissant la plupart du temps. Là, se met en place petit à petit l'idée qu'en travaillant, on va pouvoir s'enrichir.
Oui, alors l'idée, enfin pas forcément d'enrichissement tel qu'on la conçoit, mais l'idée d'une certaine opulence grâce au travail, elle est ancienne. Hésiode, les travaux, les jours. Si on travaille, on peut réussir. Et même l'aiguillon de la réussite chez Hésiode, et 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, est là. Mais néanmoins, c'est vrai, c'est plutôt l'époque moderne que l'idée d'enrichissement, telle qu'on la conçoit, apparaît. Hein. Et notamment, c'est l'époque moderne qu'il y a ce qu'un historien appelait la révolution industrieuse. C'est-à-dire que certains, souhaitant consommer davantage, souhaitent travailler davantage. Et puis il y a aussi, à partir de l'époque moderne, il y a toute cette classe bourgeoise qui se met en place. Et un bourgeois peut être riche, mais socialement, il ne compte pas. Et donc, le bourgeois qui a réussi doit générer un discours, je dirais, un discours de légitimation du travail, de son travail. Et donc, on se met à dire que le travail, il a des vertus propres, etc. Et donc, à ce moment-là, l'idéologie sert, finalement, l'accession économique et politique de la bourgeoisie.
Au fond, c'est avec la révolution industrielle que le travailleur se prolétarise, parce que ses conditions de travail deviennent infernales. Mais en même temps, plus c'est dur, plus le travail est valorisé.
Oui, oui. Alors je consacrerai d'ailleurs un futur ouvrage sur le premier âge de la prolétarisation qu'on a vraiment oublié. Mais il est vrai qu'à l'époque de la prolétarisation, système extrêmement contraignant, ceux qui pensent le travail, mais qui ne sont pas ouvriers, imagine que par le travail, l'humanité pourra s'accomplir. Même Karl Marx. Karl Marx, qui est un critique finalement du système capitaliste, qui démontre les mécanismes de l'aliénation finalement par le capital, etc. L'objectif de Karl Marx, après, dans sa société finalement communiste idéale, après, c'est d'arriver à ce qu'il appelle en 1875 l'individu intégral. Et l'individu intégral, c'est quelqu'un qui a, dit-il, un besoin vital d'autrui. Et comment Marx conçoit cette relation à autrui ? Il la conçoit par le travail, les produits que chacun va façonner pour l'autre. Donc je dirais que même ceux qui critiquent l'aliénation du travail à l'âge de la prolétarisation imaginent que le travail peut libérer, débarrasser de tout cela, être un élément, finalement, de concorde.
Et aujourd'hui, Olivier Grenouillot, ce serait l'épanouissement par le travail ? Ce serait ça qui nous caractériserait, nous ?
Alors aujourd'hui, on pourrait parler d'une crise du travail. Hein. Déjà, dans les années 1970, il y a une crise de l'emploi, tout le monde ne peut pas avoir un emploi. Et puis de cette crise, de ces crises conjoncturelles, parce que le problème de l'emploi persiste, est arrivée l'idée d'une crise structurelle. Hein. Jamie Rifkin, avec son livre « La fin du travail », il pensait que intelligence artificielle et puis robotisation ferait que plus tard, l'homme n'aurait plus besoin de travailler. Et aujourd'hui, il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler une crise de la valeur travail, puisqu'on se met à critiquer le rôle positif que pourrait jouer le travail. Au XIXe siècle, comme je disais, le travail est vu comme un facteur finalement utile dans l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, on critique la notion de progrès. Travailler pour maîtriser la nature, c'est plutôt perçu comme négatif. Au XIXe siècle, on pensait que la libération de l'individu se ferait dans la société, par la coopération. Aujourd'hui, c'est plutôt l'ère de l'individu. Et donc, dans les jeunes générations, l'idée du travail n'est plus perçue comme naturellement devant conduire à un épanouissement individuel. Voilà. Et donc, il y a une crise de la valeur travail aujourd'hui, même si on peut toujours essayer de le réenchanter, du moins de repenser le sens de la valeur travail.
L'invention du travail, c'est signé Olivier Grenouillot et ça vient de paraître aux éditions du CERF. Merci Olivier Grenouillot.
Merci.
On fait une pause, on se retrouve juste après le travail, la sexualité.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Fanny Bunion, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire à l'université Rennes 2. Pierre Fournier, bonjour.
Bonjour.
Conservateur général du patrimoine et vous publiez ensemble à l'iconoclaste Le sexe interdit, c'est sur la répression de la sexualité en France du Moyen-Âge à nos jours. Vous vous êtes plongé dans 10 siècles d'archives judiciaires, hein, depuis le 13e siècle exactement, à une époque où la sexualité est très précisément encadrée par l'Église. Alors, de quelle manière ? Qu'est-ce qui est licite au XIIIe siècle et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Alors, aux yeux de l'Église, tout est illicite, sauf la sexualité à but procréatif. On peut le résumer de façon très simple.
Oui, à but procréatif dans le cadre de la famille.
Mais alors,
de la sexualité conjugale, légitime, inscrite dans les liens du mariage. En dehors du mariage, point de salut.
Mais alors, est-ce que c'est respecté ?
Bien sûr que non.
Non, c'est pas respecté. On a justement des tas de sources qui montrent que la société entend ces injonctions de l'Église, hein, mais que voilà, on peut pas parler de déviance d'ailleurs, hein, mais on a des sources qui permettent de dire que la société
est assez tolérante au fond.
Voilà, se permet beaucoup de choses et fait preuve de beaucoup, beaucoup de tolérance, bien plus qu'aux époques suivantes d'ailleurs.
Oui, on verra ça, mais c'est intéressant de voir par exemple que la masturbation, qui posera un problème par la suite, hein, au Moyen-Âge, la masturbation n'est pas un problème, même pas pour l'Église au fond.
Effectivement, il y a des traités et des manuels hein, de confesseurs qui l'évoquent, mais de manière assez anecdotique. Et en fait, voilà, c'est très, très toléré, ce qui va vraiment changer par la suite. Et tardivement, c'est vrai que c'est au 19e siècle que là, vraiment, ça n'est plus l'Église, mais ce sont les médecins qui vont parler à longueur de traité.
Le viol, par exemple, est combattu. On peut s'imaginer, aujourd'hui, on pourrait imaginer que le viol, à l'époque, tout le monde s'en fichait pas du tout, hein.
Le mot viol, déjà, il est pas utilisé au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. On parle de rapt, mais le terme de rapt, il peut désigner aussi bien un viol que le fait de permettre à une femme d'échapper au mariage que veut lui imposer sa famille. Donc on a déjà un terme qui est un petit peu ambigu. Et puis, par la suite, ce qu'on appellerait aujourd'hui des violences sexuelles, effectivement, on en trouve trace dans des archives. Généralement, des femmes qui portent plainte, ou leur famille qui portent plainte pour ces agressions sexuelles, des plaintes aussi contre les enfants. Alors, dans le livre, on a fait le choix de ne pas évoquer la question des violences sexuelles sur les enfants. Mais effectivement, le viol, il est un objet de justice. Alors après, c'est comme aujourd'hui, la part de ce qui est traduit devant la justice ne dit rien de la réalité d'un phénomène, mais par contre, ça dit quelque chose du caractère transgressif et illégal de ces violences.
Ce qui m'a étonné en vous lisant, c'est de réaliser qu'à la fin du Moyen-Âge, les filles se marient à 20 ans et les garçons à 25. Bien plus tard, au fond, qu'on ne pourrait l'imaginer.
Effectivement, il y a cette différence-là et elle varie en plus selon les milieux sociaux. Dans l'aristocratie, par exemple, les mariages sont organisés souvent de manière un petit peu plus précoce. Mais dans la population villageoise, paysanne, ordinaire, effectivement, on se marie à l'âge adulte. À partir du moment aussi où on est en capacité de subvenir à ses besoins.
Mais qu'est-ce qu'on fait avant ?
Alors justement, c'est ça le problème, c'est que Cet âge assez tardif, finalement, du mariage, hein, fait qu'entre 14 et 20, 23, 24, 25 ans pour les garçons, vous avez une longue période d'errance, de quête. Et on lit dans les archives judiciaires énormément d'actes où il est question de ces bandes de garçons qui cherchent des filles et qui souvent d'ailleurs les violentent, avec tous les malentendus d'ailleurs, hein, qu'il y a à cette époque comme de nos jours sur le consentement. Mais c'est vrai que ces adolescents ou ces jeunes adultes, ben, ils ne vont pas rester cloîtrés chez eux à voilà, sublimer, à prier, je ne sais quoi. Ils sont sur les chemins, ils fréquentent les tavernes, les bordels, les bordeaux, comme on les appelait à l'époque. Et donc, il y a cette sexualité juvénile d'attente qu'on retrouve énormément dans les archives du 15e siècle.
Et on voit qu'on parle déjà à l'époque de « coucher ensemble ». L'expression est déjà employée.
Bien sûr. Alors ça, c'est plus un terme toléré par l'Église. Hein.
Coucher voilà, ensemble.
Vivre ensemble, c'est boire, manger, dormir. Et parfois, donc, on voit l'expression « coucher ensemble ». Mais c'est vrai que dans le langage populaire, coucher avec quelqu'un, dès la fin du Moyen-Âge, en langue française, hein, voilà, ça veut dire avoir une relation sexuelle.
Est-ce qu'on en est systématiquement au mariage arrangé par les parents, comme on l'imagine, ou est-ce qu'il y a déjà des mariages d'amour ?
C'est une question très difficile. Les historiens ne sont pas du tout d'accord entre eux. On a cette idée qu'au Moyen-Âge, qu'on soit dans le milieu aristocratique, bourgeois ou paysan, le mariage est arrangé. Et en fait, on se rend compte que dans bien des cas, il y a un mariage voilà, d'affection, d'amour. Et souvent, d'ailleurs, ça crée des problèmes dans les familles. On est incapable de dresser des statistiques là-dessus, mais vraiment. Et on a des témoignages de couples unis qui vivent apparemment une sexualité épanouie, comme on dit de nos jours.
Oui, on en trouve trace.
On en trouve trace, il y en a, c'est évident. Et puis, à contrario, des couples qui se déchirent. Et donc là, c'est l'adultère, bien sûr. Et ça.
Et y compris chez les femmes. Hein. Les femmes trompent leur mari. Voilà. On va faire une pause. On continue juste après. On va voir que, effectivement, la sexualité de nos ancêtres n'est pas du tout ce qu'on imaginait.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Fanny Bunion et Pierre Fournier qui publient Le sexe interdit. Ils se sont plongés pendant des mois dans les archives judiciaires, 10 siècles d'archives, hein, puisque vous remontez jusqu'au 13e siècle. Et on découvre là, tout à coup, la sexualité de nos ancêtres. Par exemple, la pudeur se cristallisait sur les cheveux. Les femmes avaient toujours la tête couverte en France.
Oui. Et vous savez, c'était encore le cas au début du XXe siècle. Hein. Une femme en cheveux, c'était une prostituée. L'intérêt de ces archives, c'est qu'à travers les histoires de viol notamment, c'est qu'on voit à quel point les cheveux attirent les hommes. Et donc décoiffer une femme, c'est... En fait, c'est la déshabiller encore plus qu'en la mettant toute nue. Et on a plusieurs documents qui évoquent justement cette... ces coiffes qui volent au moment où on se saisit d'une jeune femme. Et là, c'est terrible. Et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que c'est là qu'elle se met à crier, qu'elle se met à pleurer.
On voit aussi que le regard importe moins qu'aux époques suivantes. Les époques qui vont suivre, on regarde beaucoup. Hein, on essaye de surprendre l'autre. Là, c'est le toucher qui est le plus érotique hein, à ce moment-là.
Voilà. Le toucher. Et s'agissant du regard, bien sûr, on regarde. L'Église, d'ailleurs, y est attentive hein, pour définir ce que c'est que la pudeur ou l'impudeur. C'est la nature du regard qui importe. Et donc, il y a cet exemple très connu du chevalier d'Olon, le compagnon
de Jeanne d'Arc,
qui, au moment de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, se souvient de la façon dont ils ont partagé quelques mois d'existence. Et il se souvient qu'il la voyait toute nue quand elle se préparait pour aller au combat. Et alors il dit, mais bon, il a intérêt à le dire, hein, qu'il n'était absolument pas attiré par elle, par son corps. Et on voit dans d'autres documents, effectivement, que c'est la nature du regard.
On peut regarder du moment que ça n'excite pas.
Voilà.
Sont l'objet de moquerie à l'époque, les couples de veufs et de veuves remariés. Ça fait rire tout le monde. Les concubins, ça énerve tout le monde aussi. Les amants adultères. là aussi ça énerve beaucoup, hein. L'adultère, aussi bien celui des femmes que celui des hommes.
Il y a un enjeu plus important dans la réprobation sur l'adultère féminin, parce que la question qui se pose, c'est la question d'éventuels enfants adultérins à une époque où les enfants dits naturels, illégitimes, n'ont pas les mêmes droits, remettent en cause aussi la filiation. Donc il y a des enjeux en fait, qui vont bien au-delà des personnes, mais plus largement de leur famille, qui sont des enjeux économiques, des enjeux politiques. Et puis, si je peux me permettre d'avancer beaucoup dans le temps, au XIXe siècle, le code civil, qu'on appelle aussi le code Napoléon, va rigidifier cette perception de l'adultère et surtout va entériner une définition différenciée de l'adultère féminin ou masculin. Dans la loi, on ne définit pas de la même manière l'adultère féminin ou l'adultère masculin, l'adultère féminin étant beaucoup plus grave et passible de peines beaucoup plus lourdes, alors que l'adultère masculin est plus difficile à établir avec des peines beaucoup plus légères.
En revanche, dans les tribunaux, on parle du plaisir féminin. Hein, c'est pas du tout tabou, comme on pourrait le penser.
Alors, dans certaines affaires très particulières, hein, quand il s'agit de juger, là c'est l'Église hein, qui juge à travers les tribunaux d'officialité, l'impuissance. Et donc là, les juges ne sont pas seuls, ils sont accompagnés d'experts, de médecins, de chirurgiens et de matrones. Et là, on va expertiser les parties génitales des époux, des deux. Et ça va jusqu'à une épreuve qu'on appelle le congrès, où on enferme les deux époux qui se détestent, bien sûr, puisque la femme souvent a porté plainte pour impuissance contre son mari. Et on va leur demander de faire le nécessaire pour déterminer si oui ou non il y a impuissance ou frigidité de la part de l'épouse. Alors et là, c'est extraordinaire.
Je vous interromps parce que les procès d'impuissance, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Or, ils sont retentissants à l'époque. Et vous parlez d'un procès qui a eu une publicité énorme en 1659, le procès pour impuissance du marquis de Langeais. C'est un déballage du même ordre que celui qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard. Hein.
C'est encore pire.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que tout le monde s'en préoccupe.
Voilà, une femme peut porter plainte contre ce mari parce qu'il est impuissant.
Voilà. Mais encore faut-il
qu'elle le prouve.
Qu'elle le prouve et que les juges et les experts soient d'accord entre eux. Et les pièces sont vraiment très intéressantes quand on voit qu'il y a un désaccord entre les experts. Et s'agissant du marquis de Langeais, c'est l'arrêt de ces procès pour impuissance parce que le marquis de Langeais est déclaré impuissant à l'issue de l'épreuve du congrès où il n'a pas pu, en fait, malgré toutes ces fanfaronnades préalables. Donc, le mariage est rompu, est annulé par l'Église, qui seule peut annuler le mariage. Hein. Sauf que voilà, il se remarie et il aura 5 enfants avec sa nouvelle femme. Donc là, le Parlement de Paris, les magistrats, les juristes ont dit stop, on arrête.
Mais c'est fou, parce que là non plus on ne l'imagine pas, mais une femme qui veut faire un procès en impuissance à son mari, elle peut le faire emprisonner et elle peut même faire saisir ses biens, pour pas qu'il s'enfuit.
Bien sûr. Non, c'est des affaires très très sérieuses en fait. Hein. Et il y a une sorte d'âge d'or de ces procès pour impuissance, c'est la fin du XVIe siècle et le siècle de Louis XIII, le début du XVIIe siècle. Et assez curieusement, ça correspond aussi à l'âge d'or, je mets des guillemots, et à l'âge d'or des procès pour sorcellerie.
Eh bien justement, on va en parler des procès pour sorcellerie, mais d'abord, on fait une pause.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Fanny Bunion et Pierre Fournier qui publient Le sexe interdit aux éditions de l'Iconoclaste. Alors parmi ces affaires qui ont énormément de publicité, à peu près à toutes les époques d'ailleurs, il y a les affaires de filtre d'amour, d'ensorcellement. Ça intéressait beaucoup nos ancêtres. Hein.
Oui, ça intéresse d'ailleurs encore beaucoup nos contemporains. Hein.
Pas sous la même forme.
Pas sous la même forme. C'est un peu plus chimique que par le passé. Donc voilà, les filtres d'amour, tous les produits abortifs, bien sûr. Hein. Il y a aussi beaucoup de questions liées à l'avortement par les plantes ou d'autres procédés. Et puis, bon, il y a tous ces produits aphrodisiaques et autres qui vont rendre les amants plus vaillants.
Et ça, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit exactement ?
Alors, en fait, ça n'est pas interdit. La justice intervient quand on bascule vers quelque chose qui s'apparente à l'empoisonnement ou à l'ensorcellement.
Comme aujourd'hui, la drogue du viol.
Par exemple. On sait qu'à Paris, au XVIIIe siècle, vous avez chez les herboristes notamment et d'autres officines, des ventes de ce genre de produits. Mais voilà, à un moment, il y a un des...
Un des, deux
un des amants qui va porter plainte parce que voilà, il considère qu'il a été empoisonné. Et puis il y a toujours le rôle du complice aussi, de l'amant dans les couples qui dysfonctionnent. Et c'est vrai que cette bascule vers l'empoisonnement, le maléfice, l'ensorcellement, c'est aussi ce que l'on voit dans les procès de sorcières, qui souvent sont des femmes plutôt inoffensives, qui rendent beaucoup de services à leurs voisins, y compris dans ce domaine-là. Et puis un jour, ben voilà, tout s'écroule.
Avec des produits qui ne sont pas les produits de synthèse qu'on peut connaître aujourd'hui, mais des produits naturels. Alors on fabrique effectivement des filtres d'amour, des potions à partir du sang des règles, par exemple, à partir de testicules d'animaux qu'on va transformer, réduire en poudre et mélanger à de la cuisine et donc faire manger de la cuisine ensorcelée. Donc il y a beaucoup de plantes aussi, mais de fluides ou de matières qui proviennent aussi des organes génitaux eux-mêmes, à qui on prête des vertus magiques.
Alors quand on lit votre livre, on s'aperçoit que c'est entre les guerres de religion et la Révolution française que s'abat la véritable répression de la sexualité. C'est pas au Moyen-Âge, comme on pourrait l'imaginer, c'est vraiment à partir de la Réforme, au fond, et jusqu'à la Révolution française, et puis ça va repartir ensuite au XIXe siècle, où l'État va s'immiscer encore davantage dans la sexualité.
Absolument, le Moyen-Âge, avec le recul que nous avons maintenant, il nous apparaît comme une époque vraiment très très tolérante. Et comme vous l'avez dit, c'est la réforme et la contre-réforme catholique qui vont rigidifier, codifier, normaliser et renvoyer les femmes à leur seule fonction domestique au foyer. Elles ne sortent plus.
En France, elles sortent quand même.
Dans certaines catégories de la population, on n'admet pas vraiment qu'elles sortent dans la rue. Et ça, donc, c'est vrai que c'est le XVIIe siècle. Quand vous voyez certains manuels de maintien, il y a des injonctions du genre il faut bannir tous les miroirs des intérieurs pour pas que les jeunes femmes se regardent dedans. Donc vous imaginez tout de même.
Ça, c'est respecté.
Respecté dans certaines, dans certaines catégories de la population, catholiques comme protestantes, oui, oui. Alors après, il y a les femmes du peuple beaucoup plus libres de leur mouvement, parce qu'elles, de toute façon, elles travaillent, elles travaillent hors de chez elles. Mais c'est vrai qu'on dit au XVIIe siècle, on voit vraiment que les choses se figent, se durcissent. Alors, il y a la parenthèse du XVIIIe siècle, bien sûr, où là, il y a à nouveau un relâchement.
Le libertinage.
Voilà. Et puis...
Le XIXe arrive.
Et le XIXe est synonyme de rigidification, effectivement, terrible, en particulier pour les femmes, où la loi, le code civil en particulier, fait des femmes des mineurs au même titre que les enfants. Dans le cadre du mariage, les femmes sont dépossédées de tous les droits et sont renvoyées vraiment à une séparation des sphères. La sphère privée, domestique pour les femmes, donc à l'intérieur, et puis la sphère publique, politique, économique pour les hommes. Donc l'idée même de cette philosophie du code civil, c'est que, on prend souvent cette métaphore botanique, c'est que la femme appartient à son mari comme l'arbre fruitier appartient au jardinier, c'est-à-dire qu'une femme c'est fait pour faire des enfants. Donc une sexualité qui serait en dehors... De la fécondité, n'a pas lieu d'être. Et il y a tout un carcan moral, juridique, mais aussi religieux, moral, qu'on trouve dans la littérature aussi, corsette, effectivement, qui tente en tout cas de corseter l'intimité des hommes et des femmes.
Mais alors ça, on l'entend bien, et quand on lit les grands romans du 19e, on voit bien à la fois que c'est comme ça, la morale veut ça, on s'aperçoit aussi que ça n'est pas respecté, mais vous donnez un chiffre dans votre livre qui m'a impressionné, vous dites qu'à la Belle Époque, donc au tournant, à la fin du 19e siècle et début du 20e, un quart des filles ont des relations sexuelles avant le mariage. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, on a plusieurs manières pour l'établir, mais il y a aussi une manière toute simple de démographie historique, c'est qu'on regarde les dates des unions et les dates des naissances des enfants. Et quand il y a 3 mois entre un mariage et une naissance, on peut supposer qu'effectivement le mariage a été consommé en amont. Donc ça fait partie des habitudes. Et puis il y a aussi beaucoup de mariages qui sont organisés parce qu'il y a une grossesse qui est en cours et qu'il faut régulariser, entre guillemets, cette sexualité qui a pris les chemins de traverse.
Alors on voit bien qu'au XXe siècle... Tout commence, il y a des révolutions sexuelles dès l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, il y a une première révolution sexuelle, il y en aura une deuxième dans les années 60. Au fond, on voit bien que le grand combat du XXe siècle, c'est empêcher la limitation des naissances. Là, l'État veut absolument qu'on continue de faire des enfants, donc il prohibe tout ce qui peut aider les femmes à limiter le nombre d'enfants qu'ils veulent. Et puis aussi, limiter la pornographie et, dans la mesure du possible, les sexualités que vous appelez marginales.
les normes morales évoluent finalement assez peu. Hein. On reste sur un modèle hétérosexuel dans un cadre familial qui doit être fécond. Et donc tout ce qui est en dehors et qui cherche volontairement à être en dehors est réprouvé par la morale. Mais il y a effectivement des initiatives, des mouvements libertaires, néo-malthusiens, féministes aussi, de permettre aux individus d'avoir une connaissance de leur corps, une connaissance de la sexualité, et de pouvoir, si il et elle le souhaitent, dissocier la sexualité de la procréation, ce que permettent déjà de toute façon des moyens mécaniques, hein, comme les préservatifs, les PCR, les caps cervicales, qui sont des moyens mécaniques de contraception, mais qui sont interdits en France, et leur publicité est interdite, fait l'objet de poursuites, de condamnations à de la prison.
On veut faire des enfants.
Il faut faire des enfants, en particulier au sortir de la Première Guerre mondiale. La saignée démographique de la Première Guerre mondiale est l'occasion de verrouiller de manière très rigide les questions de sexualité, tout comme le travail des femmes aussi tend à être, en tout cas, renvoyé au foyer les femmes qui sont mères de famille. Donc il y a cette idée, voilà, d'enfermer dans une sphère familiale. Et puis il y a quand même des initiatives, des pratiques des gens ordinaires, et puis des initiatives aussi de courants politiques plutôt marginaux, mais qui voilà, disent mais il y a des moyens, avoir des enfants qu'on n'a pas désirés ou qu'on n'a pas les moyens économiques d'élever, c'est un problème de société, et donc il faut permettre aux individus de connaître leur corps, de connaître le fonctionnement du corps, et de pouvoir choisir d'avoir ou pas des enfants. Et là, pour le coup, on est dans une transgression des normes morales, religieuses, sexuelles manifestes.
Oui, et ce qui a changé au début du XXe siècle par rapport aux époques précédentes, c'est que l'Église, qui a encore pas mal d'influence, est épaulée par l'État, comme vient de le dire Fanny, et par les médecins. Et on a des témoignages extraordinaires de consultations médicales, et l'un d'entre eux, le docteur Bergeret, je crois, finit souvent par dire aux femmes qui viennent le voir, mais vous savez, il n'y a qu'un truc qui marche, faites un enfant, voilà, et tout rentrera dans l'ordre.
Pour tous les problèmes.
Tous les problèmes.
Et puis on a aussi quelques médecins qui ont une approche un petit peu différente et qui considèrent notamment en cas de ce qu'on appellerait aujourd'hui des troubles de l'humeur, des états dépressifs, et bien que les activités sexuelles sont une manière de guérir de ces troubles, et pratiquent ce qu'on appelle des stimulations clitoridiennes, et donc utilisent des vibromasseurs à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour satisfaire, en tout cas procurer du plaisir aux femmes, et au-delà du plaisir sexuel immédiat, un bien-être plus large. Donc on a aussi du côté de la médecine des discours parfois contradictoires, mais avec l'idée que de toute façon, la question de la sexualité, c'est aussi une clé sociale bien plus large.
Effectivement, c'est ce que montre votre livre. Je rappelle son titre, Le sexe interdit, ça vient de paraître chez l'Iconoclaste. Voilà, qu'est-ce qui était admis et qu'est-ce qui était puni chez nos ancêtres, c'est pas toujours ce que l'on croit. Merci tous les deux.
Merci.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. En attendant, c'est le grand rendez-vous. Europe 1, CNews, Les Échos, avec Louis de Ragnel. Bonjour Louis.
Bonjour Frédéric.
Qui est votre invité aujourd'hui ?
Je reçois ce matin Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics. Et pour l'interroger, je serai entouré de Nicolas Barré, des Échos, et de Mathieu Boccoté pour CNews.
Eh bien, bonne émission.
Europe 1.